un podcast France Culture.
Une vague de grippe déferle sur le pays. Vague ou raz de marée?
Troisième épisode. Les mystérieuses grippes modernes.
Devant les perspectives hallucinantes de l'épidémie, les actualités françaises ont jugé de leur devoir d'interroger le plus célèbre des spécialistes, le professeur Pierre Dac.
Monsieur le professeur, que pensez-vous de l'épidémie de grippe italienne?
Je suis contre. Oh là là, résolument contre. Mais d'ailleurs, dès l'apparition des premiers symptômes de cette grippe dite italienne, tenez, voici l'ordonnance que je viens d'établir et qu'il faut faire exécuter immédiatement par le pharmacien ou par tout autre commerçant qui voudra bien s'en charger. Mais voilà, primo, sulfate de parmesan râpé, 125 grammes. Chlorhydrate de gnocchi, une pelletée. Uranium, une livre et demie.
Merci, docteur. Bon,
à partir du moment où on a pu mettre en évidence qu'il s'agissait d'une infection virale et qu'on a pu isoler, en tout cas concentrer le virus, il devenait possible d'envisager un vaccin. Après, il a fallu trouver comment maintenir en vie ce virus et on s'est aperçu que c'était possible sur des embryons de poulets. Donc le vaccin, il n'est envisageable qu'à partir de 1944, de la découverte par Smith et d'autres, les Anglais, du virus de la grippe humaine. Et d'autres scientifiques arrivent à faire un vaccin. Le problème, c'est que ce vaccin vise une souche de virus à un moment T, et on l'a vu, ce virus a tendance à changer extrêmement vite. Donc les premiers essais vaccinaux était vraiment pas encourageant. 1947, chez des soldats américains, une protection assez minime. Et c'est au fil des pandémies suivantes qu'on va commencer à trouver la bonne méthode, qui consiste d'abord à surveiller les virus en circulation, les caractériser et se dire, tiens, un nouveau virus arrive, il faut le rajouter au vaccin et modifier le vaccin pour obtenir une efficacité modéré, mais visible. Il y a un virus qu'on va appeler H1N1, H pour hémagglutinine, N pour noradrénalinidase, et en fait, il existe un réservoir pour les morceaux du virus. Le virus de la grippe est composé de 8 morceaux, H, N et encore 6 autres morceaux. Le réservoir est lié à la faune avicole, les oiseaux, en particulier ceux qui vivent dans des espaces aquatiques. D'ailleurs, ça leur donne soit pas de maladie, soit plutôt des diarrhées. Mais ces virus-là, c'est ceux qui vont ensuite permettre au virus de la grippe qui circule chez l'homme de se renouveler. Le premier épisode de renouvellement important survient donc en 1956, début 1957, avec une épidémie, une pandémie qui va commencer, qu'on appelle la grippe asiatique.
Actuellement, elle est en Europe. Quelques cas en Europe sont apparus d'abord en Hollande et dans différents points, aussi en Angleterre, en Italie. Maintenant, nous avons quelques cas en France, quelques petits foyers qui ne paraissent pas très étendus.
Elle commence en Chine, puis elle va diffuser en particulier à Singapour, puis ensuite un peu partout, enfin sur l'ensemble de la planète. Et elle est due à un nouveau virus, H2N2, donc H et N ont changé, et parmi les 6 autres morceaux, 5 sont restés identiques à H1N1, un sixième lui aussi vient de changer. Donc c'est 3 nouvelles cartes finalement qui sont redistribuées, dont les 2 cartes essentielles, H et N, qui font que l'homme n'a plus l'immunité qu'il avait lors des épidémies de grippe saisonnière qui étaient dues à H1N1 à l'époque. Ce virus H2N2 va donner une pandémie qui provoque entre 1 et 4 millions de morts selon l'OMS. C'est difficile à chiffrer. H2N2 va éjecter H1N1 de sa niche écologique. Sa niche écologique, c'est l'endroit où le virus vit, en fait, c'est l'homme. Et la présence d'H2N2 fait que H1N1 disparaît chez l'homme. H1N1 canal porcin, lui, va rester, va continuer, mais H1N1 humain disparaît. Voilà, c'est une pandémie pas si grave que ça, qui passe d'ailleurs globalement inaperçue.
703 morts en une semaine aux États-Unis, la grippe de Hong Kong fait des ravages.
Oui, les services de santé sont sur les dents aux États-Unis, et encore, cette statistique n'est-elle que partielle. Le virus de la grippe de Hong Kong est particulièrement virulent, si j'ose dire, et paraît-il, il est aussi très contagieux.
H2N2 va faire son travail de virus de la grippe, devenir une grippe saisonnière chez l'homme, pendant les années qui suivent, jusqu'en 1968, où on va avoir la grippe de Hong Kong. Nouvelle pandémie, et là, donc une pandémie qui commence en Chine, décidément, et qui va toucher ensuite secondairement Hong Kong. On va avoir là des dégâts assez importants, ça inquiète un peu, et ensuite une diffusion mondiale qui va se faire par l'Asie du Sud, et ensuite les États-Unis, le lien étant le retour des GIs du Vietnam. Donc, on a toujours cette association entre mouvement de militaire et mouvement de pandémie et d'épidémie. C'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Et donc là, retour des Américains, des soldats américains du Vietnam. Ils amènent la grippe avec eux. Et on a une épidémie de grippe aux États-Unis, mais pas encore en Europe. On est en 1968. 1969, un peu d'inquiétude. Mais l'Institut Pasteur considère que finalement, ça va bien. Et on arrive à la fin de l'année 1969, l'hiver arrive, et là, contre toute attente, on a 25 000 morts en France. Alors ce chiffre, on ne l'a pas eu en 1969, c'est Arnaud Fontanet, épidémiologiste du Conseil scientifique, qui a fait l'étude, mais des années après, on est dans les années 2000, Donc c'est vraiment une épidémie extrêmement meurtrière. Heureusement, elle a été courte, puisqu'il y a 5-6 000 morts en janvier, puis ensuite ça se calme. H3N2 aura quand même eu une particularité, c'est d'éliminer H2N2. H3N2, lui, s'est maintenu, et il donnait une sorte de grippe saisonnière. Et puis H1N1, vous vous souvenez, avait disparu à la grippe asiatique de 1957-58. 1977 arrive une nouvelle grippe, qu'on appelle la grippe russe. En regardant de plus près, elle est plutôt chinoise. Et cette grippe russe a une particularité, c'est qu'elle touche essentiellement des sujets jeunes. Elle circulera sur l'ensemble de la planète, elle fera 700 000 morts, ce qui n'est pas négligeable. Mais là, les scientifiques vont s'apercevoir que c'est H1N1, le virus de la grippe espagnole. Plus tard, quand on saura séquencer l'ensemble de l'ARN de ce virus, on s'apercevra que c'est le H1N1, branche humaine de 1957, celle qui avait disparu. Donc là, on a un virus qui n'a pas muté pendant les 20 ans, entre 1957 et 1977. Donc on est certain que ce virus, il n'est pas naturel. Il est, on l'appelle the frozen pandemic, la pandémie congelée. Enfin. Et ce virus de la grippe russe n'est autre qu'un virus qui a été conservé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux hypothèses, personne ne peut trancher. La première, c'est un essai vaccinal en Chine qui a mal tourné et ensuite ça a diffusé. La deuxième, c'est une fuite de laboratoire par, je sais pas, manipulation effectuée dans un laboratoire sur un virus qui avait été conservé pendant 20 ans congelé.
Voilà qu'une nouvelle épidémie menace l'Europe. Le virus, sans doute un dissident, se serait échappé d'un laboratoire soviétique où on faisait justement des recherches sur un vaccin. Alors y a-t-il un moyen efficace pour se protéger? Mouchoir en main, Jean-Paul Cadoret a demandé quelques conseils au docteur Inter.
Il y a une chose à faire, c'est se faire vacciner. Il y a fabriqué par les grands instituts français du virus atténué ou du virus tué plus exactement dans les vaccins disponibles. Ceux qui sont nés avant 57 ont des chances d'avoir des anticorps, les autres ont intérêt à se faire vacciner. Et puis les personnes âgées ont oublié leurs anticorps et ont intérêt à se faire revacciner.
8h13.
On n'a donc pas l'explication, ça montre qu'on ne s'intéresse pas trop aux causes et c'est pas une priorité. Parce que moi j'aurais bien aimé avoir l'explication d'une épidémie ou d'une pandémie qui a donné quand même 700 000 morts. Ça me paraît quand même quelque chose d'important. Mais pour moi, ça montre que dès lors qu'on commence à garder des virus dans nos congélateurs, il y a quand même un risque de les voir ressortir à un moment ou un autre. Et au moment où ils ressortent, comme ils sont en décalage temporel, notre immunité n'est plus totalement effective. Déjà, un virus qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans, elle a un peu oublié. Mais en 20 ans, il y a une population qui est née, qui a grandi et qui est complètement susceptible. Les personnes de plus de 20 ans ou 25 ans avaient connu le virus, donc finalement ne faisaient pas de forme grave. Mais par contre, les jeunes de 20 ans faisaient des formes calamiteuses, mais quand même assez carabinées. Il y avait pas mal de morts. Donc là, quelque chose d'extrêmement préoccupant, on va dire.
Hôpital de Bray à Paris. Rien que ce matin, 150 patients ont poussé la porte des urgences pédiatriques. Des enfants avec un train de fièvre ou un nez qui coule et des parents sur les dents, avec en tête une obsession, la grippe A. Ici, depuis une semaine, les jours se suivent et se ressemblent. Une affluence record, 80% d'activité en plus pour les médecins. Des médecins qui en appellent à plus de raisons concernant cette grippe.
2009, nouvelle pandémie. Déjà, quand même, par rapport aux autres pandémies, elle est extrêmement bénigne. Par contre, effectivement, on s'est fait un peu peur parce qu'on a vu débarquer cette pandémie pratiquement simultanément au Mexique et aux États-Unis. Mais là, on s'est aperçu qu'on avait affaire à un nouveau virus. H1N1. H1N1, nouveau virus. On l'a vu quand même un certain nombre de fois, cette histoire de H1N1. On a vu qu'il était le virus de la grippe espagnole. Une lignée est passée chez le porc, une lignée est passée chez l'homme. Chez l'homme, il a tenu jusqu'en 1957. Il a disparu de 57 à 77. Il est ressorti sous forme de grippe russe non naturelle en 1977. Et voilà maintenant qu'on retrouve un H1N1. Alors, c'est pas le même. Ce H1N1 de 1977, il a continué un petit peu gentiment sous la forme de grippe saisonnière, mais un autre H1N1 était là. Et en fait, ce H1N1 se rattache beaucoup plus à la lignée porcine. Et pour être plus précis, c'est quand même un virus qui a largement fait l'objet de réassortiments. Et en fait, cet ensemble-là, c'est un espèce de mélange, de jeu de cartes rebattu, où il y a à la fois des éléments de grippe porcine, des éléments de grippe humaine, y compris le virus de la grippe qui circule à l'époque, qui est du H3N2, et des éléments de grippe aviaire. Cet ensemble-là se recombine d'abord dans un paquet de 6 qui circule chez le porc aux États-Unis, mais deux cartes de ce jeu viennent d'Europe et d'Asie, et on ne comprend pas très bien comment toutes ces cartes se retrouvent au même endroit, au même moment. L'hypothèse qui a été avancée, mais qui est une hypothèse qui ne peut pas être étayée par des éléments, c'est-à-dire que ça reste une hypothèse, même si elle est privilégiée, c'est une recombinaison dans un élevage de porcs au Mexique, avec des porcs qui seraient arrivés d'Europe, d'Asie, et tout ça se serait mélangé. Mais on ne trouve pas sur le continent américain les ancêtres sur 2 des 8 cartes du virus H1N1 2009. Bon, l'autre hypothèse, c'est que ce soit un virus fabriqué en laboratoire. C'est plus facile d'aller chercher des bouts à droite, à gauche. Mais cette hypothèse n'a fait l'objet d'aucune investigation. Alors pourquoi on s'amuserait à fabriquer des virus en laboratoire? Ben pour faire des vaccins, et en particulier, là, visiblement, ce qu'on visait, c'était le porc. Mais on n'a pas les éléments, donc il y a ces deux hypothèses. L'une a été largement mise en avant, l'autre n'est pas forcément évoquée. Elle est techniquement possible, mais il n'y a pas d'argument, ni pour l'une, ni pour l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'investigation des épidémies. C'est que quand il y a des questions comme ça, on ne se donne pas forcément les moyens de les résoudre. Et ça finira par être un problème pour l'humanité de ne jamais savoir quand il y a une pandémie, s'il n'y a pas une erreur humaine en amont.
En ce début de 21e siècle, ce genre d'erreur humaine, engendrée par des expérimentations trop audacieuses, incontrôlées, incontrôlables, pourrait nous conduire à notre perte. C'est ce que vous allez découvrir dans ce 4e et dernier épisode.